Affaire Farewell, une taupe au KGB. Vous savez ce que l'on pouvait obtenir en France dans les années 80 contre quelques bijoux et des bouteilles de champagne? Allez donc poser la question à Vladimir Hippolytovitch Vetrov, cet espion soviétique qui a tant fait pour la France, trahissant l'URSS dans l'ombre. Il transmettait ses renseignements à la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, l'ancêtre de la DGSI aujourd'hui. Ses renseignements portaient sur le fonctionnement du KGB et les activités des espions russes en France. Pas moins de 3500 documents ont été transmis. Une véritable mine d'or, inespérée. Le lieutenant-colonel Vetrov, nom de code Farewell pour les services français. Un incroyable jeu de trahison qui aura ébranlé le système soviétique et probablement contribué à sa chute. L'affaire Farewell, c'est aussi l'histoire d'un homme, animé par une profonde rancœur pour une nation auquel il croyait tellement, un mépris des services administratifs qui l'ont tué à petit feu. C'est le dernier acte héroïque d'un dépressif, noyant son chagrin dans la vodka. Voici la véritable histoire Farewell. Cette opération restait dans les annales de l'espionnage mondial pour son ampleur. Vladimir Vetrov est un moscovite dans l'âme. Il y a passé une grande partie de sa vie. Il y naît le 10 octobre 1932 à la maternité Grauermann. Ses parents sont d'honnêtes travailleurs que le régime soviétique a voulu récompenser en leur offrant une modeste pièce dans un grand immeuble partagé avec d'autres familles. Par ce geste, l'URSS veut saluer le courage de l'un de ses soldats, le père de Vladimir, Hippolyte Vassilievitch Vetrov. Il est sorti glorieux du front de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale. Le voilà contremaître dans une usine de fabrication de propane. La mère de Vetrov est l'une de ses filles de paysans qui n'a pas eu la chance d'accéder à la scolarité. Ne sachant pas lire, elle doit se contenter de faire des ménages pour de riches particuliers. Ainsi, Vladimir Vetrov grandit dans un milieu très modeste. Pour échapper à sa condition, il s'investit avec une grande ferveur dans ses études. Quelques membres du Parti communiste de l'Union soviétique remarquent ses talents, notamment dans le sport. Dès l'âge de 15 ans, il remporte plusieurs compétitions d'athlétisme. Il reçoit les félicitations de la nation et promu un bel avenir. Peut-être qu'un jour, il décrochera le précieux sésame, une place au sein de la nomenclatura. Comprenez, l'élite de l'élite, la classe privilégiée du régime soviétique. Le jeune Vetrov jubile. Il se verrait bien directeur d'usine ou dirigeant de la bureaucratie, ou peut-être obtenir un bon poste dans un ministère. Il s'investit toujours plus dans ses études, surpasse les connaissances de sa famille. En récompense de ses efforts, la nation lui accorde un accès à l'école d'ingénieurs de Moscou en 1951. Le voilà parti pour 5 longues années d'investissement intellectuel. Il réussit ses examens haut la main. En 1957, il intègre, en tant qu'ingénieur, l'usine SAM, qui produit des machines à calculer. C'est un bon poste avec une bonne paye et un bel appartement de fonction. Une prison dorée. Vetrov finira vite par le comprendre. Pour l'heure, c'est un fonctionnaire heureux et un homme amoureux. Quelques années auparavant, il a rencontré une femme au physique d'athlète, Svetlana Barashkov. Ils se sont rencontrés un jour sur le banc d'un stade à l'occasion d'une compétition pour ne plus jamais se quitter. Le 8 décembre 1957, les deux amoureux se marient. C'est un couple fusionnel. Jusque-là, la vie de Vladimir est à l'image de l'utopie soviétique. Une vie en surface dont tout le monde rêve, mais dont personne ne voudrait savoir ce qu'il se cache en dessous. Courant de l'année 1959, lui et sa compagne apprennent que le KGB recrute de nombreux agents. Le service des renseignements de l'URSS répond à une volonté du gouvernement de prendre la tête de cette course au progrès. Une compétition technologique qui ne pourra pas se gagner sans tricher. Il prévoit de déployer des centaines d'agents à l'étranger pour espionner leur industrie technologique et scientifique. Vetrov veut participer à cette opération de grande ampleur. Pas nécessairement pour la gloire. Pour l'ingénieur, ce recrutement est avant tout une belle opportunité pour s'ouvrir au monde. Il trouve excitante l'idée de se rendre dans un pays ennemi au régime. Découvrir les plaisirs interdits dans l'antre du diable. Svetlana encourage son mari à envoyer sa candidature. Chose faite le 8 juillet 1959. Malgré la demande, le KGB est très sélectif sur ses candidats. Vetrov a un avantage. En plus de sa spécialisation technique, il est issu d'une famille ayant participé à la défense du pays pendant la guerre. Le 20 août 1959, il reçoit une réponse positive, signée de la main du major général Svetlichny. Vladimir Vetrov va être l'un des derniers élèves à bénéficier de l'enseignement de l'Académie du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, plus connu sous le nom d'Académie Dzerzhinsky. En effet, à la suite d'un décret du Conseil des ministres de l'URSS, le 1er octobre 1960, l'Institut est remplacé par l'École supérieure du KGB, établissement que le futur espion russe fréquentera également. L'étudiant de 28 ans suit un nouveau cursus scolaire intensif de 2 ans. Il y apprend l'anglais, le français et les différentes techniques d'espionnage. Les cours sont intensifs, la discipline est rude, mais à la fin de son parcours d'apprenti espion, il est autorisé à intégrer un poste important en tant qu'ingénieur principal au département des relations extérieures. Travaillant pour le comité d'État de la technologie électronique, il est seulement à quelques années de son objectif final, s'expatrier à l'étranger. Sa compagne finit par le suivre en France, le 16 août 1965. Si Vladimir Vetrov a pu atteindre son objectif, c'est grâce au contre-coup de l'affaire Yuri Nosenko. Ce dernier est un agent du KGB qui avait pour mission d'infiltrer la CIA en 1962. Après avoir eu quelques contacts auprès des services secrets américains, il essaye de s'expatrier 2 ans plus tard grâce à une stratégie un peu bancale. Depuis le début, il s'était fait passer pour un faux traître à son pays. Il avait demandé une protection de la part de la CIA, car sa trahison avait été détectée. En échange, il pouvait donner des informations sur l'organisation autour de l'assassinat du président Kennedy. Sa demande avait été acceptée, mais sa présence sur le sol américain éveille les soupçons. Les autres espions soviétiques, qui étaient déjà présents à l'étranger, perdaient peu à peu leur couverture, obligeant le KGB à les rapatrier en URSS. En résumé, Vetrov fait partie d'un impressionnant convoi de plusieurs centaines de nouveaux agents secrets, à l'heure où l'espionnage russe veut faire peau neuve. Affecté à Paris au ministère du Commerce extérieur, il a pour mission de recruter des agents sur le terrain, chargés de fournir des informations techniques à la Russie. Les réunions se font à l'abri des regards, mais dans des endroits pas si secrets que ça. Vetrov est enivré par un sentiment de liberté. Il découvre la joie d'aller où il veut, quand il veut. Ce qu'il préfère, surtout, ce sont les cabarets, les restaurants et les bistrots. Et c'est justement dans les arrières-salles de ces établissements qu'il rencontre ses agents, ainsi que des ingénieurs français. Sous la table, il échange des mallettes de billets contre du matériel technologique pour le compte de l'URSS. Ces ingénieurs ne savaient pas que le matériel était destiné à l'espionnage. Ils y voyaient là un bon moyen de briser l'embargo commercial. Jusqu'à ce qu'un jour, Vetrov s'adresse à la mauvaise personne. Il rencontre un haut cadre de l'entreprise Thomson CSF, Jacques Prévost. Il porte une double veste, celle d'un amical représentant d'usine et une autre, cachée sous la première, celle de correspondant pour le compte de la DST. Depuis plusieurs semaines, le service de contre-espionnage français s'inquiète de la présence des Russes sur le territoire et de la mainmise sur les affaires étrangères. La rencontre entre les deux hommes aurait pu se solder par un conflit diplomatique, mais contre toute attente, c'est la naissance d'une belle et grande amitié. C'est le début de la fin pour Vladimir Vetrov. Sous prétexte d'entretenir une amitié nécessaire avec cet homme d'affaires, il embrasse un peu plus les nombreux vices de la capitale française. Vetrov présente sa femme à Jacques, lui fait de même et les deux couples enchaînent les virées dans les grands restaurants, les salles de spectacle, boivent beaucoup et vivent de nombreuses nuits d'ivresse. Jusqu'à l'ivresse de trop.